Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord Diac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Vous écoutez
RMC.
Et tout de suite, on parle d'un projet en vue. C'est le projet du jour.
Pas de lapin, oui, il y a le jour.
La secrétaire d'État à la jeunesse est levée des couleurs que vous entendez. La secrétaire d'État à la jeunesse, Sarah El Haïry, confirme qu'un projet de service national universel obligatoire pour tous les mineurs est bien à l'étude actuellement. Alfred, à quoi ça pourrait ressembler ?
Eh bien, ce séjour de cohésion n'aurait plus lieu sur les vacances scolaires comme c'est le cas aujourd'hui, mais s'étalerait sur toute l'année, entre octobre et juin. Ce sont les élèves de seconde qui seraient les principaux concernés. En 2022, il y a déjà 32 000 jeunes entre 15 et 17 ans qui ont participé à ces stages de citoyenneté, des stages où on enseigne la discipline en promouvant les valeurs et les principes républicains. Sa potentielle généralisation, elle ulcère notamment les syndicats lycéens. La voie lycéenne dit notamment, on peut s'engager autrement qu'en passant par ce service. L'autre réserve, Rémi, concerne la place prise par ce dispositif qui, d'après les associations de parents d'élèves, pourrait grignoter jusqu'à 2 semaines d'enseignement scolaire, entraînant des retards dans le programme.
Un service national universel obligatoire pour les mineurs. D'accord, pas d'accord. Vous nous appelez au 32-16. Thierry.
Ah, moi, je suis pour. Je suis pour parce que je pense que c'est l'occasion de faire passer tous les jeunes Français pour une courte période et puis rappeler ce que c'est que d'être Français, de faire partie de la nation. Je pense que la levée des couleurs, la Marseillaise, il ne faut jamais oublier. Moi, j'ai fait mon service militaire en 84, donc parce que je suis un peu un boomer.
Mais moi aussi, j'ai fait.
J'ai été blessé, donc je n'ai pas fini mes classes parce que j'étais blessé par une crosse. Donc là, on n'est pas dans un service militaire armé, il faut bien le dire. C'est un service citoyen. Si ça peut permettre, un, de rappeler les valeurs de la République, ce que faisait l'éducation physique et ce que ne fait plus l'éducation physique, au passage. Ça permettait notamment de repérer aussi des gens qui avaient des difficultés de lecture, des difficultés d'apprentissage. Donc on pouvait les repérer et éventuellement les prendre en charge à ce moment-là. Je ne vois que des vertus à ça et je dis qu'aujourd'hui, alors je vais sans doute passer pour un vieux con auprès de certains auditeurs ou peut-être même auprès de mes propres enfants, mais l'idée de savoir ce que c'est qu'une Marseillaise, la levée des couleurs, apprendre le respect et la discipline comme tu l'as dit, ça me paraît très important parce que on ne cesse de le dire, y compris sur ce plateau, qu'on perd les repères, on perd les valeurs, on ne respecte plus son prof, on ne respecte plus un gendarme, on ne respecte plus un policier, on ne respecte plus même celui qui vous fait traverser la route quand vous êtes un écolier. Donc oui, si ça peut permettre de faire nation, comme on dit, mais c'est une expression que j'aime pas, je trouve que c'est plutôt une bonne chose.
Laurent Dandrieux, le retour du service, tu vois, lapsus révélateur, dire pour le retour du service national, là, non, ça serait pour le rendre obligatoire, le service national universel.
En fait, moi, je me pose deux questions, celle de l'acceptabilité et celle de la faisabilité. L'acceptabilité, parce que, en fait, le service militaire, lui, il est mort un peu avant d'avoir été supprimé, parce que, finalement, les gens y allaient vraiment en traînant les pieds parce que plus personne ne savait trop à quoi ça sert.
Ouais.
Ça servait. Et là, je trouve qu'on est sur des buts qui sont très globaux, assez généraux. Et on n'est pas bien sûr déjà de savoir à quoi on va consacrer effectivement ces 2 semaines. Et on constate aujourd'hui qu'il attire, un des buts c'est le rassage social, mais en fait, dans les faits, ça attire pas tout le monde. Ça attire, pour faire court et schématiser, mais plutôt une jeunesse un peu bourgeoise. Donc ça veut dire que tout le monde ne voit pas l'intérêt. La deuxième chose, c'est la faisabilité et notamment la question du coût, parce qu'on nous explique que le pays est au bord de l'apocalypse parce qu'on va s'arrêter de travailler une journée. Mais là, on parle quand même de généraliser un dispositif qui, s'il était appliqué à toute une classe d'âge, coûterait à peu près dans le milliard d'euros à peu près, tous les ans. Donc on n'est pas sur du léger. Et puis y a aussi le problème juridique, c'est que pour le généraliser à toute une classe d'âge et pas seulement aux volontaires, il faudrait changer la constitution. Et donc,
je m'interroge aussi sur le caractère obligatoire. Imagine que tu n'y ailles pas. tu risques quoi ?
Eh bien, effectivement, je pense que tu pourrais imaginer des sanctions, mais les sanctions ne peuvent être justifiées que si cette obligation est constitutionnalisée. Bah oui. Et donc, et puis ça pose aussi le problème d'ailleurs de l'autorisation parentale. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut obliger des jeunes ?
Je dirais que ça, c'est des détails techniques. Alors, tu disais,
la révision de la Constitution, c'est pas un petit détail. Non, hein, c'est très compliqué à faire.
Tu dis, on traînait les pieds pour y aller. C'est vrai qu'on traînait les pieds pour y aller, mais en revanche, une fois qu'on en sortait, on en avait plutôt un bon souvenir. Voilà, c'est juste ce que je voulais apporter comme bémol.
Oui, mais il y a quand même eu une dégradation du sens de l'utilité et donc de l'acceptabilité.
Moi j'aime beaucoup cette idée. Ça vous étonne pas, j'aime beaucoup cette idée. Le caractère obligatoire, il est obligatoire, je veux dire. Parce que s'il n'est pas obligatoire, ça ne sert à rien.
Bah oui.
Ça sert à rien, parce que automatiquement vont aller des gens qui sont déjà convaincus par l'intérêt de ça. L'intérêt, c'est vraiment le brassage social. Moi qui viens d'une famille populaire, d'un petit village, etc. Vous savez, la première fois où j'ai rencontré des analphabètes, c'était aux trois jours. Ouais, dans ta ville, à Cambrai.
Oui, mais moi aussi.
C'est-à-dire que voilà, parce que vous savez, alors, les trois jours de mon temps, c'était ce qu'on appelait une demi-journée ou une journée, c'était le jour de recrutement, en fait.
On faisait des tests médicaux, des tests psychologiques, etc., des tests de niveau.
Je me souviens d'une grande classe, on était une cinquantaine, où on faisait des tests.
Ouais. Et à la caserne d'Ortier.
Exactement. J'étais chez toi. La première fois, j'étais chez toi à Cambrai.
On vous demandait notamment, on vous présentait un clou et on vous demandait est-ce que vous allez plutôt l'enfoncer avec un marteau, avec une pelle, enfin ce genre de.
Toi, tu l'as fait largement avant moi, donc nous, c'était déjà plus ça. Et la première fois, et je sais qu'il y avait un officier qui avait dit bon, qui ici ne sait pas écrire avec... Et j'avais été très surpris parce que sur les 50, il y en avait 3-4 garçons de mon âge qui avaient levé la main.
J'ai vécu la même situation.
Je n'avais jamais été confronté à ça. Et je vous dis, moi, j'ai un petit village du Pas-de-Calais, d'une famille populaire, enfin voilà. Et ben oui, et même moi, j'avais découvert des choses. Aussi, quoi.
Ouais. Et bien aujourd'hui, ces gens-là, ils savent lire et écrire.
Alors j'espère. Mais pour te dire qu'on découvre des choses grâce au service national, on découvre d'autres types de populations que la celle à laquelle on est confronté au quotidien. Donc rien pour ça, c'est très important.
Ouais, quand tu les découvres, t'en fais quoi après
Déjà, tu les traites. Tu connais le pays dans lequel tu vis. Quoi.
Oui.
Parce qu'en fait, on est, en gros, quand on est journaliste, c'est un petit peu différent parce qu'on fait beaucoup de reportages, etc. Mais en gros, tu restes toujours dans ton milieu social, dans ton cadre, etc. Donc là, je trouve ça très intéressant ce mélange. Et puis la question, je vais dire un gros mot. Identité nationale.
Quoi ? Oh là, on n'a pas le droit ici.
On n'a pas le droit.
Je retire immédiatement ce que tu as dit.
Vous vous souvenez, quand Nicolas Sarkozy avait préconisé cette grande réflexion sur qu'est-ce qu'être français aujourd'hui ? Il s'était fait démonter par tout le monde en disant que c'était fasciste, c'était quasiment nazi de réfléchir sur ce qu'était aujourd'hui l'identité nationale. Et ben moi, je pense que ce service national peut être l'occasion pour beaucoup de jeunes de se dire. Qu'est-ce qui me raccroche à la France ? Qu'est-ce qui me rapproche de la France ? Eh bien, cette réflexion qui n'est pas normale dans la vie quotidienne, elle pourrait se faire grâce à ce service obligatoire.
Un service national universel obligatoire pour les mineurs. D'accord, pas d'accord ? Vous nous appelez au 3216 et au 3216. Tout de suite, eh bien, on rejoint Jonathan. Bonjour, Jonathan.
Bonjour.
Merci. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Jonathan, vous nous appelez depuis hier.
Oui, tout à fait.
Un instant, Jonathan. Une question, deux questions. D'abord, une seule. Vous êtes sapeur-pompier, ça je le sais.
Oui.
Sapeur-pompier volontaire ?
Professionnel.
Professionnel. Vous avez quel âge, Jonathan ?
J'ai 29 ans.
29 ans, c'est ça, j'ai bien entendu ?
Oui.
D'accord. Un service national universel obligatoire, vous êtes pour ou contre ?
Moi, je suis pour. Tout à fait pour. Pour la petite histoire, moi j'ai commencé à rentrer dans le monde des sapeurs-pompiers à l'âge de 13 ans, dans ce qu'on appelle l'école des jeunes sapeurs-pompiers. C'est-à-dire que le mercredi après-midi, à la place d'aller jouer au foot avec mes copains, je me rendais à la caserne de mon village où il y avait une petite école. Et donc on apprenait les bases du métier de sapeur-pompier, mais également tout ce qui était vivre ensemble et vivre en France. Par quoi ? Par des blocs de compétences ou des items qui s'appelle la culture administrative. Donc ça, on a abordé un petit peu le fonctionnement étatique, comment est votée la loi, les couches administratives, etc., pour savoir dans quel cadre on évolue et dans quel cadre on grandit. Ensuite, donc la vie en collectivité, à travers le sport, les tâches ménagères, l'esprit d'équipe et l'entraide. Pour moi, c'est obligatoire et ça a été fondamental dans ma construction personnelle. Alors, c'était facile parce que moi, je voulais devenir pompier. Donc, c'était orienté là-dessus. Donc, il n'y avait pas de souci, ça a été facile pour moi. Mais j'ai plein d'amis qui l'ont fait, qui ne sont pas devenus pompiers, mais par contre, ça leur a beaucoup apporté, quoi. Au moins aujourd'hui.
Et qui regardent un bon souvenir.
Un excellent. Moi, l'instructeur que j'avais, donc que j'ai eu de 13 à 17 ans, c'est devenu un ami. Enfin, il est venu à mon mariage, il connaît ma fille 10 ans après. Enfin, il n'y a aucun problème, quoi. Et pour moi, ça a été presque un troisième parent. Ils m'ont apporté beaucoup plus de choses que sur le fonctionnement de mon pays et l'amour que je dois apporter à mon pays que l'éducation civique à l'école.
Mais alors, une question, Jonathan. Est-ce que malgré tout, est-ce que ça suffirait pas de communiquer sur le dispositif qui existe déjà, de le promouvoir, d'inciter? Non. Est-ce qu'il faut vraiment rendre obligatoire ce système?
Oui, je pense qu'il faut le rendre obligatoire parce qu'aujourd'hui, les jeunes, ils préfèrent s'instruire sur Instagram ou TikTok que voir ce qui se passe en vrai, quoi. Donc, par contre, je trouve que le lycée, ça intervient un petit peu tard. Je pense qu'il faudrait le rendre obligatoire plus tôt, au collège, comme moi je l'ai fait par exemple, parce que ça aiderait aussi les personnes qui le font. Non. Moi je l'ai fait à 13 ans, ça m'a pas tué. Et ça m'a aidé à m'orienter.
Jonathan, je pense qu'au niveau du lycée, ça peut aussi susciter des vocations professionnelles vers la police, oui, par exemple, vers l'armée, vers votre corps.
C'est un peu tard au lycée.
C'est ce que je dis. Moi, je veux le faire au collège pour qu'ils orientent leur étude au lycée, en lycée professionnel, en lycée général, dans le but de
Jonathan, c'est quoi la troisième? C'est 14-15 ans? Non, 13-14 ans. Ce qu'a fait Jonathan quand il a fait.
En seconde, c'est pas non plus l'apocalypse.
Ouais.
Oui, 16 ans. Ouais, 16 ans, moi j'ai fait l'âge 16 ans me paraît bien parce qu'en plus 16 ans, c'est.
On a mûri un peu.
Après 13 ans, ça me paraît un peu jeune pour beaucoup.
Merci Jonathan d'avoir été avec nous au 32-16 depuis hier. Et Cédric nous rejoint. Bonjour Cédric.
Bonjour messieurs.
Bienvenue dans Estelle Midi sur RMC, RMC Story. Cédric, vous nous appelez depuis où?
Pau.
Pau, très bien. Moniteur auto-école.
Oui, tout à fait.
Pour ou contre?
Oui. Pour.
Le service national universel obligatoire.
Pour.
Pour quelle raison?
Alors, moi, je fais partie de cette génération où on a le service national.
Vous avez quel âge, Cédric?
44.
D'accord.
Mmh. Et alors, moi, j'ai pas fait le service national. Je me suis engagé à 17 ans. Voilà. Parce que j'étais un peu perdu en échec scolaire, tout ça. Et
pas chez les parents à Pau, quand même.
Non, du tout. J'étais au 126e régiment d'infanterie à Brive-la-Gaillarde, donc ça n'a rien à voir.
D'accord. Okay.
Et justement, étant en échec scolaire, je suis arrivé un petit peu là-dedans, me disant ben, ça va être manuel, surtout dans l'infanterie, et je me suis aperçu très très vite pendant mes classes qu'on avait des cours de français, qu'on avait des cours de maths, qu'on avait des cours d'anglais, etc., etc. Pendant 6 mois de classe assez intensif à l'époque. Et ça, toute ma section était comme ça. Et ça nous a tous sauvé la vie, quoi, parce qu'on a tous réussi des carrières professionnelles après. Qu'on ait ou pas fini nos contrats militaires, d'ailleurs, parce que c'était assez intensif. Et aujourd'hui, j'étais cadre dans la pub, tout ça grâce à cette période-là, en fait. Pas par rapport à ma scolarité qui a été un chaos complet.
Mais qu'est-ce qu'elle vous a apporté en particulier, cette période-là? Parce que vous avez suivi une scolarité correcte ou pas?
Non, du tout. Ma scolarité, elle était...
Donc ça vous a remis sur le droit chemin, en quelque sorte?
Oui, exactement.
Sur les
rails, la droiture,
quoi.
Ça vous a apporté de la droiture?
Oui,
des repères.
Déjà une hygiène de vie, que ce soit alimentaire, que ce soit corporel, faut quand même le dire. Se raser, se laver tous les jours, avoir l'obligation de se lever. Encore aujourd'hui, régulièrement, à 4h30, j'ai mon sergent dans la tête. Et pourtant, ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté, quoi. Non, mais ceux qui l'ont vécu, ils savent. Je veux dire, ils comprennent
tout à
ça.
Fait. C'est vrai.
Et à l'époque,
on peut pas le retirer. Alors c'est pas tous ceux qui l'ont vécu. Thierry a fait son service militaire. Cédric, vous êtes engagé. Moi, j'ai fait mon service militaire. Fred aussi. Laurent aussi. C'est vrai que bon. Parfois, vous savez que la mémoire se transforme avec les années. Mais c'est vrai que moi, je me souviens, en sortant de mon service militaire, déjà, lorsque j'avais des camarades qui me parlaient qu'ils allaient le faire, eux, qui m'avaient demandé, alors c'était comment, j'aurais dit franchement, c'était un peu long, mais c'était vraiment sympa. C'est rare que j'entende quelqu'un, c'est vrai que c'est rare, qui vienne nous dire, moi j'ai fait mon service et franchement,
mais là,
c'était pas terrible.
Ce que nous décrit notre auditeur, c'est
j'en ai rien tiré en tout cas.
C'est une éducation nationale qui réussit, qui marche.
Et c'est ce que j'allais dire.
C'est ça qui est terrible. Ouais. C'est qu'en fait, on invente un dispositif supplémentaire pour pallier les carences de l'éducation nationale.
Ce qui était avant,
ce qui vient en
ce qui, non, mais ce qui était avant l'éducation nationale, parce que
messieurs, je
moi, je,
si je peux me permettre à nous entendre là, on fait quand même et je vais.
Vieux con, tu veux dire?
Ah, on fait vieux con. Voilà.
Quand
tu parles de ton service militaire, tu fais forcément vieux con.
Non, mais ce qui est important par rapport à l'éducation nationale, moi je suis né en 1970, j'ai encore connu la peur des profs. C'est-à-dire qu'on respectait les profs, on en avait peur. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Et pour nos parents, c'était encore pire l'autorité qu'il y avait. Donc il faut une autorité quand tu veux être formé. Et notre auditeur, moi j'étais très touché par son témoignage en disant que ça lui a sauvé la vie, quoi. Il a dit ça parce qu'il avait besoin de repères et de cadres. Et il y a quand même beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont besoin de ces repères et de ces cadres. Donc pour pallier en partie à un certain échec de l'éducation nationale, ce service me paraît merveilleux.
Merci à Cédric d'avoir été avec nous. Il nous appelait depuis Pau. Il est moniteur auto-école là-bas et il a ému Fred Hermel. C'est pas rien, quand même.
C'est difficile.
C'est pas difficile de m'émouvoir.
Alfred, on a quelques messages et puis le résultat de notre consultation, le service national universel obligatoire pour les mineurs. D'accord ou pas d'accord?
Oui, alors vous répondez d'accord à 61%, non à 39%. Quelques messages intéressants du Rudy d'abord. Tout ce qui peut rendre un peu de civisme dans notre société est bon à prendre. Annick qui dit non, c'est tout au long du parcours scolaire qu'il faut que les gamins apprennent les valeurs de la citoyenneté. Et puis je finis par un message d'Hervé, ingérable et inutile, 2 semaines avec des gens non motivés, ça n'apportera rien de bon.